Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le pétrole, son approvisionnement, son caractère inflammable.
Exactement, avec des tensions très inquiétantes pour la sécurité énergétique. C'est ainsi en tout cas que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie a qualifié la situation dans le Golfe à l'occasion du G20 de l'énergie au Japon ce week-end, avec des menaces qui s'accumulent. Vous le savez, sur les navires et les installations dans une zone stratégique. Pour autant, pas de choc pétrolier. Alors le risque est-il maîtrisé? On voit ça avec vous, Francis Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes le directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé à l'OCP Policy Center de Rabat. Alors, ce sont des inquiétudes, on l'a entendu, du directeur de l'Agence internationale de l'énergie après les explosions sur deux pétroliers étrangers en fin de semaine dernière dans le Golfe. Deuxième incident du genre en un mois. C'est une situation qui est quand même, il faut le souligner, inédite depuis ce qu'on appelait la guerre des pétroliers en 1984, des pétroliers touchés.
C'est exact. Nous avons eu, pendant la guerre Iran-Irak, entre 1980 et 1988, de très nombreuses attaques dans la région du Golfe contre des navires pétroliers, des tankers. Et puis depuis, ça s'était calmé, alors que pourtant, la région du Moyen-Orient reste une région effectivement sous tension. Ces tensions sont d'ailleurs montées dans les derniers mois, les dernières semaines. Alors on est loin évidemment de ce qui s'est passé dans les années 1980. Nous avons eu pour l'instant, depuis le mois de mai, 6 attaques contre des navires, dont des navires pétroliers et quelques autres navires, 4 il y a un mois et 2 dans les derniers jours. Et puis nous avons eu également il y a un mois une attaque contre un oléoduc en Arabie Saoudite, l'oléoduc Est-Ouest, attaque menée par des drones armés venant du Yémen et revendiqué par les Houthis au Yémen. Donc c'est préoccupant parce que ça fait donc 7 incidents depuis un mois et quelques jours. Mais évidemment, on ne peut pas encore établir de comparaison avec ce qui s'est passé dans les années 1980, car c'était évidemment beaucoup plus intensif et beaucoup plus grave. Cela dit, bien sûr, ces 7 incidents sont préoccupants, car nous parlons d'une région, le Moyen-Orient, la région du Golfe, qui est le poumon pétrolier mondial.
Et voilà, et avec des installations en dur touchées, vous l'avez dit, pour cet oléoduc qui va de la mer Rouge jusqu'au Golfe. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des marchés, ou plutôt de la qualification qui a été employée le jour même? Le jeudi, donc, les cours du pétrole sont montés jusqu'à plus 4%. Beaucoup de médias ont titré sur une flambée, même si finalement, à la fin de la journée, les cours n'avaient pas tant augmenté que ça.
C'est exact. Sur la journée, il y a une hausse de 2,2% du prix du pétrole Brent produit en mer du Nord et coté à Londres, et du prix du brut américain West Texas Intermediate, WTI, coté à New York. C'est évidemment significatif, ce n'est pas considérable au regard des événements dans cette région clé pour les équilibres pétroliers mondiaux. Donc une hausse des prix significative dans cette journée, le jour donc de ces incidents, de ces attaques contre ces deux tankers dans le golfe d'Oman, mais pas quelque chose de considérable. Alors on va voir ce qui va se passer cette semaine, mais les marchés donc ont enregistré évidemment ces attaques et ont réagi à la hausse, ça ne pouvait pas être autrement. Ce n'est pas effectivement une flambée pour l'instant. Ensuite, cela va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce qu'il y aura d'autres incidents? Comment vont réagir les États-Unis? Comment va réagir l'Arabie Saoudite? Comment va réagir les Émirats Arabes Unis? Que va faire l'Iran? Est-ce que les États-Unis vont encore renforcer leur dispositif militaire dans la région du Golfe? Bon, nous sommes évidemment sur beaucoup d'incertitudes parce que nous sommes dans le domaine de la géopolitique pétrolière mondiale qui ne peut pas, évidemment, par définition, être planifiée et prévue par qui que ce soit. Si ces incidents, si on en reste là, je dirais, il n'y a pas de raison que les prix du pétrole flambent. Mmh. Si par contre, on rentre dans un cycle de tensions croissantes avec une probabilité d'opérations militaires devenant de plus en plus forte, ce qui est possible, bien sûr, là, l'impact sur les prix pourrait être beaucoup plus important.
Donc le risque de choc pétrolier n'est pas à éviter. Ce serait quoi un choc pétrolier si ce n'est pas 4% de hausse? Ce serait de l'ordre de 10%, quelque chose comme ça?
Ah, 4%, ce n'est pas du tout un choc pétrolier. Rappelons que nous avons eu donc ces fameux deux chocs pétroliers dans les années 1970. Hein, le premier au moment de la quatrième guerre israélo-arabe, 73-74. Les prix avaient été multipliés par 4 à l'époque en 3 mois. Et puis le deuxième choc au moment de la révolution islamique en Iran, à partir de 1979, et entre 1979 et 1981, les prix avaient été multipliés par 2,5. Donc voilà, un choc pétrolier, ce n'est pas plus 2%, plus 4%, plus 5%, plus 10% sur les prix. Oui. C'est beaucoup plus. C'est une augmentation des prix, mais ce n'est pas un choc pétrolier, c'est une augmentation très forte sur une courte période de temps. Et puis n'oublions pas qu'entre 2016 et 2018, après une forte chute des prix entre 2014 et 2016, sur 2016-2018, les prix du pétrole avaient augmenté de 200%.
Oui, effectivement. Et de ce point de vue-là, vous l'avez suggéré, quel que soit le responsable des attaques, quatre pays ont accusé, je cite, le régime iranien d'être responsable, mais Iran ou pas, celui qui a fait ces attaques, s'il a voulu faire monter les cours, on peut dire que c'est raté de ce point de vue-là alors?
Alors, ça a fait un petit peu monter les cours, qui étaient orientés à la baisse depuis plusieurs semaines. Donc, on peut dire que celui qui a fait ça a volontairement ou pas enrayé la chute des prix depuis plusieurs semaines, chute importante puisqu'il n'y a pas si longtemps, on était pour le Brent de la mer du Nord monté à $75 par baril.
Et on est tombé à
$60 par baril ou un petit peu moins. Maintenant, nous sommes à 62. Il y a on a donné un coup d'arrêt à la baisse des prix. Les prix ont remonté de l'ordre donc de $2 à $3 par baril. Ce n'est pas négligeable, mais effectivement, on ne peut pas du tout encore parler de choc pétrolier. Nous n'en sommes pas là pour l'instant.
Et de ce point de vue-là, si on revient à l'antagonisme États-Unis-Iran, c'est vous qui disiez récemment, je crois, que la politique de Trump présentait un risque, mais toute la difficulté pour lui consistait, je vous cite, à affaiblir l'Iran sans provoquer de flambée. Là, c'est gagné par contre.
Oui, tout à fait. C'est gagné. On l'a déjà vu à la fin 2018. Rappelons que c'est à partir du 5 novembre 2018 que les États-Unis ont rétabli les sanctions extraterritoriales liées au pétrole iranien. Cela veut dire concrètement que depuis le 5 novembre, les Américains demandent à tous les pays du monde et à toutes les compagnies pétrolières du monde de ne plus acheter de pétrole iranien et de ne plus investir dans le secteur pétrolier et gazier en Iran. Alors ils ont laissé quelques exemptions pendant 6 mois jusqu'au début mai pour 8 pays, 5 en Asie, 3 en Europe. Et à partir du début mai, ils ont dit maintenant c'est fini, plus de cadeaux pour personne. On veut aller vers 0 exportation pétrolière de l'Iran et 0 investissement étranger dans le secteur des hydrocarbures en Iran. Donc c'est effectivement une politique extrêmement dure. Et tout le monde s'attendait à ce que les prix du pétrole flambent au dernier trimestre 2018 lorsque ces sanctions extraterritoriales ont été rétablies par Washington. Or, entre le début du mois d'octobre et la fin décembre 2018, non seulement les prix n'ont pas flambé, non seulement ils n'ont pas augmenté, mais ils ont chuté fortement, puisque le Brent de la mer du Nord est passé d'environ $85 par baril au début octobre 2018 à $50 par baril fin 2018. Donc l'an dernier, effectivement, Trump a gagné sur tous les tableaux. Il a rétabli des sanctions très dures contre l'Iran. Il a fait chuter fortement la production et les exportations pétrolières de l'Iran. Et en plus, il a fait baisser les prix du pétrole.
Bon, ça c'est pour les risques sur les prix. Et puis toute dernière question, je passe un peu du coq à l'âne, mais comme il en était également question lors de ce G20 de l'énergie au Japon, c'est la transition énergétique avec beaucoup de pression pour l'avion propre par exemple, ou pour tout simplement passer du fossile à l'hydrogène. Est-ce que c'est pas le plus grand risque pour le pétrole, sa demande et sa consommation à long terme finalement, cette transition?
À long terme, effectivement, il y a un vrai risque pour les intérêts pétroliers par rapport à la prise en compte de la lutte contre le changement climatique.
Et le fait que les États jouent un rôle déterminant dans cette transition, je veux dire. Oui.
Ah, mais bien sûr, le rôle des États sera déterminant pour faire reculer la consommation mondiale de combustibles fossiles. C'est donc pétrole, charbon, gaz naturel, en sachant que parmi ces trois énergies fossiles qui toutes génèrent des émissions de CO2, gaz carbonique, dioxyde de carbone, le principal acteur du changement climatique, charbon est le plus mauvais, le pétrole est moins mauvais et le gaz naturel est la meilleure. Mais toutes sont évidemment des énergies fossiles. Oui. Donc le pétrole est dans le tas, même si la priorité sur le plan mondial devrait être le plus rapidement possible de faire reculer la consommation mondiale de charbon. Mais le pétrole, évidemment, est sur la sellette, non pas tout de suite, mais à long terme. Cela prendra du temps parce que pour l'instant, le pétrole, c'est l'énergie la plus consommée au monde et celle qui est omniprésente dans le secteur des transports routiers, aériens et maritimes. Et dans ces trois secteurs clés, le pétrole, c'est 90 à 100% de part de marché aujourd'hui.
Et bien,
puis, évidemment, des usages non énergétiques tels que la pétrochimie, à travers le naphtha, qui est un produit raffiné. La pétrochimie, c'est une industrie essentielle pour l'économie mondiale, puisque cela donne les matières plastiques que nous consommons tous les jours, du matin au soir. Donc le pétrole est loin d'être mort, mais effectivement, un jour, sa consommation arrivera à un pic au niveau mondial, puis commencera doucement à décliner, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et pour cela, il faut le faire reculer d'abord dans le secteur des transports. Et là, les principaux concurrents du pétrole, c'est pour l'instant l'électricité avec les voitures électriques, qui sont encore faibles mais qui montent rapidement, le gaz naturel qui a un rôle à jouer, les biocarburants, et puis à plus long terme, l'hydrogène. Voilà quels sont les principaux concurrents à long terme du pétrole dans le secteur clé des transports.
C'est dit et c'était très complet. Merci beaucoup Francis Perrin, chercheur, directeur de recherche à l'IRIS, chercheur à l'OCP Policy Center de Rabat.